Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Agnès, ça commence aujourd'hui. Les élections européennes débutent dans une heure au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où les populistes sont favoris. En France, 15 listes en débat hier soir sur France 2 et France Inter. On voit ça en détail, de manière complète, après les autres titres.
Les syndicats d'Ascoval reçus cet après-midi à Bercy, alors que l'avenir de la scierie de Saint-Saulve s'assombrit. Quand Patrick Balkany règle ses comptes avec Didier Schultz, sur fond de financement du RPR, les législatives en Inde avec les inquiétudes de la minorité musulmane et puis des jets au yacht, difficile de concilier écologie et croisette.
Les invités de France Inter ce matin, bonjour Karine Bécard.
Bonjour à tous.
7h50.
Il se dit profondément socialiste et écologiste, ce qui ne l'a pas empêché de perdre tous les derniers scrutins, notamment l'élection présidentielle. Aura-t-il plus de chances à ces européennes? Le très fédéraliste Benoît Hamon, tête de liste pour le mouvement Génération, et notre invité à 7h50.
À tout à l'heure, Karine. 8h20, la suite et la fin de nos grands entretiens spéciaux. Vous connaissiez le principe, une tête de liste aux européennes tous les jours au micro de France Inter. On ferme le banc aujourd'hui avec Nathalie Loiseau pour la liste Renaissance, La République en marche. Dialoguez avec elle. Posez-lui toutes vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Une fois encore, chaque candidat est venu avec un objet symbolisant sa vision de l'Europe. Pragmatique, Yannick Jadot a choisi son bulletin de vote. Manon Aubry a apporté une bouteille d'oxygène pour mieux respirer dans une Europe qui étouffe. François Bayrou a sorti d'une boîte en carton une petite chouette en bois, un animal qui voit la nuit. Et Marine Le Pen a brandi la photo d'un chauffeur routier, Loïc, confronté à la concurrence des travailleurs détachés. Puis le ton est vite monté dans ce débat sur France 2 et France Inter entre les 6 représentants des partis en tête dans les sondages. Et c'est l'insoumise Manon Aubry qui a tiré la première, en raillant les 3 partis qui ont choisi d'envoyer au front non pas la tête de liste pour le scrutin de dimanche, mais le ou la chef de parti. C'était le cas pour Laurent Wauquiez chez les Républicains, Marine Le Pen pour le Rassemblement National et François Bayrou pour La République en marche. François Bayrou, cible des attaques hier soir et qui a eu, Laurence Perron, bien du mal à s'imposer.
Il avait quelque chose du judoka qu'on aurait malencontreusement posé sur un ring de boxe, François Bayrou. Face au cogneur de droite surtout, il peine à relever le gant. Là, c'est Laurent Wauquiez qui attaque.
Monsieur Bayrou, vous ne pouvez pas venir ici en disant c'est grâce à Emmanuel Macron et c'est grâce à la liste En Marche qu'on va reformer l'Europe. En 2 ans, vous nous avez mis à dos la totalité de nos partenaires européens.
Interrogé sur la nécessité de quotas de réfugiés, l'éphémère ministre de la Justice d'Emmanuel Macron assume un non, pas exactement dans la ligne présidentielle. Et ça lui est rappelé.
C'est votre avis personnel.
C'est mon avis personnel.
Ça n'est pas l'avis d'En Marche, parce qu'En Marche, eux, ils sont pour.
Madame Loiseau.
Oui. Parce que dit Madame Loiseau.
Madame Loiseau, à juste titre, elle demande qu'on...
Shopping de l'asile, elle demande.
Quand lui maîtrise assez peu l'exercice très contraint du débat minuté, ses adversaires, à commencer par Marine Le Pen, ne s'épargnent aucune facilité.
Si Emmanuel Macron arrive en tête, il va se sentir légitimé. Vous rirez d'un trait de plume, c'est 27 ou 28 semaines de fierté, accompagné par des millions de Français qui ont redressé la tête à ce moment-là. Surtout, lui donnez pas les pleins pouvoirs en lui permettant d'arriver en tête de cette élection européenne.
C'est finalement de la tête de liste socialiste, Raphaël Glucksmann, que viendra la main secourable. L'élection européenne mérite mieux qu'un remake de 2017.
Un deuxième débat a ensuite permis à 9 autres candidats de défendre leurs idées et un ultime débat entre 11 têtes de liste est organisé ce soir sur BFM. Le chef de l'État, lui, a sonné la mobilisation générale hier en Conseil des ministres. Des ministres qui vont se succéder cet après-midi au QG d'En Marche pour passer des coups de fil. Opération de sensibilisation par téléphone. Emmanuel Macron, de son côté, préside aujourd'hui le premier conseil de défense écologique, une nouvelle instance censée définir les choix stratégiques en cohérence avec les différents ministères. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Eux, c'est donc aujourd'hui qu'ils votent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les électeurs élisent aujourd'hui leurs représentants au Parlement européen. Et pour la suite de notre série La campagne ailleurs en Europe, direction donc ce matin Maastricht aux Pays-Bas, où les populistes pourraient marquer un premier point. C'est en effet, Angélique Bouin, un parti eurosceptique qui caracole en tête des sondages.
Au menu de ces meetings, immigration, valeurs traditionnelles, défense du pouvoir d'achat, et Raoul est un fan, croisé sur un parking de supermarché, il sait pour qui il ira voter ce matin.
Thierry Baudet, parce qu'il est très moderne, très radical. Nous avons ici en Pays-Bas le même problème comme en France. Immigration, terrorisme, voilà. et le gouvernement fait rien.
Paula, qui range son caddie, n'a rien contre les immigrés, mais elle ne votera plus non plus pour les partis traditionnels. Elle a choisi le parti animaliste.
On peut voter, mais les politiciens n'en font qu'à leur tête. Si vous leur donnez votre voix, ils disent « Ah, je ferai ceci ou cela pour vous », et puis ils font différemment, ils ne tiennent pas parole.
Maastricht, ville universitaire, à la cafétéria en plein air du département des sciences sociales, la vague populiste annoncée est dans bien des discussions. Omar explique qu'ici on étudie l'Europe et qu'avec la plupart de ses camarades, il votera contre les eurosceptiques.
Ils répandent des mensonges auprès des gens au sujet de l'Union européenne. Je vais voter pour le plus européen des partis parce que je pense qu'ils sont vraiment le principal danger pour l'avenir de l'Union européenne.
En mars dernier, les populistes du Forum pour la démocratie sont devenus ici le premier parti du Sénat. À Maastricht, Angélique Boin, France Inter.
Les Britanniques votent sur fond de négociations sur le Brexit alors que le plan de la dernière chance que doit présenter Theresa May au Parlement ne semble convaincre ni ses opposants, ni même sa majorité, puisque hier, c'est la ministre chargé des relations avec le Parlement qui a démissionné. Le Royaume-Uni, vers lequel tous les regards sont braqués, l'annonce hier de la liquidation de British Steel, autre branche du repreneur d'Ascoval, a plongé dans l'angoisse les 270 salariés de l'aciérie de Saint-Saulve. Sarah Lemoine était hier à leur côté. Reportage.
Pour les salariés d'Ascoval, c'est comme un cauchemar sans fin. Trois repreneurs en deux ans, dont le dernier, Olympus Steel, désormais en difficulté après le placement en redressement judiciaire de sa filiale, British Steel. Hier, les salariés d'Ascoval étaient écœurés. Nicolas Letellier, délégué CGT.
Ça fait quand même trois fois qu'on est repris. Ça fait quand même trois fois que le repreneur n'a pas les reins assez solides financièrement. Franchement, nous, on est au bout du rouleau. Mettez-vous à notre place.
Les salariés d'Ascoval ne savent plus à qui se fier. Ils ont du mal à croire, comme le dit Bercy, que les déboires de British Steel n'impacteront pas leur activité. Et ça, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, l'a bien compris.
Oui, ils n'ont pas plus. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas au ministre, ce n'est pas au président de région d'apporter les réponses. C'est le repreneur qui doit être convaincant.
L'enjeu pour les syndicats, c'est d'obtenir des réponses très claires du repreneur, puis jouer carte sur table avec les salariés, avec à la clé un vote pour ou contre le projet de reprise. Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale, s'y est engagé hier lors d'un échange avec les salariés.
Je n'irai pas contre vous. Si votre décision, au final, c'est de dire on laisse tomber, ben on laissera tomber, c'est tout. À condition qu'il y ait une majorité claire et franche.
Un vote qui pourrait être organisé d'ici 15 jours après les réponses attendues aujourd'hui à Bercy et une prochaine rencontre avec le repreneur.
Au chapitre justice, 6 mois de prison avec sursis requis à l'encontre du manifestant qui avait insulté Alain Finkielkraut en marge d'une mobilisation des Gilets jaunes. Le jugement sera rendu le 12 juillet. Et puis le jeune homme qui avait agressé une jeune femme transgenre Fermins, place de la République à Paris, a lui été condamné à 10 mois de prison, dont 6 mois ferme. Et puis le tribunal correctionnel de Paris s'est replongé hier dans les années 80-90 et le financement du RPR à l'occasion du procès Balkany, car c'est l'ancien élu de Clichy, Didier Schuller, condamné pour trafic d'influence, qui en 2013 a mis la justice sur la piste de l'argent suisse de Patrick Balkany. Compte rendu d'audience signé Sarah Guibaudeau.
Personne n'a fait citer Didier Schuller comme témoin, mais ses oreilles ont sifflé. Il a déclaré avoir amené en Suisse une dizaine de millions de francs entre 1987 et 1994, des dons d'entreprise pour une caisse noire électorale. Pour l'accusation, cet argent a servi en fait à financer les travaux du moulin de Giverny et l'achat d'une première villa aux Antilles. Patrick Balkany dément. Pour lui, Didier Schuller n'a surtout pas digéré de ne pas être investi par la droite pour les municipales de 2014.
C'est un mythomane, un délateur.
Vous n'avez jamais fait de financement politique ?
Mais ça va pas. Je ne me suis jamais occupé de financement politique. Non, madame. Il n'y a jamais eu un sou qui est arrivé en Suisse.
L'argent en Suisse venait de sa famille, répète-t-il. Mais pour l'accusation, la vente du magasin parisien de son père n'aurait pas rapporté autant qu'il le dit. Surtout, Patrick Balkany reconnaît pour la première fois qu'il était bien le bénéficiaire de la société écran désignée par Didier Schuller. Comment en a-t-il eu connaissance, demande le procureur. Oh, le nom était apparu depuis longtemps. Dans la presse qui fait coin-coin, répond Patrick Balkany, qui désigne ainsi le canard enchaîné, et qui ajoute « Arrêtons avec le fantasme de l'argent politique ».
Il est 7h09, le dépouillement de plus de 600 millions de bulletins de vote, Agnès, a commencé en Inde.
Et les premiers résultats donnent une nette avance à la coalition du Premier ministre Narendra Modi et de son parti nationaliste hindou, ce qui inquiète la minorité musulmane et les défenseurs de la laïcité. Sébastien Farcy est à New Delhi pour France Inter.
Depuis 5 ans, le gouvernement du BJP a mené une politique hindouiste féroce. Interdiction quasi totale de l'abattage des vaches, considérées comme sacrées, tolérance voire soutien des milices qui tuent des musulmans transportant du bétail. Et enfin, ostracisation de la population musulmane qui est poussée à adopter des pratiques hindoues. Si ce gouvernement est reconduit, la poursuite de cette politique inquiète Nilanjan Mukhopadhyay, journaliste spécialisé du suprémacisme hindou.
Notre Premier ministre est un populiste autoritaire et il est en train de faire de l'Inde une démocratie ethnique qui favorise surtout la majorité hindoue. Il a dit qu'il était nécessaire de purifier les musulmans pour en faire des hindous.
Le programme du BJP ne prévoit aucun soutien aux minorités religieuses, mais de grands plans pour le renforcement de l'idéologie hindouiste dans la société. Lors de ces élections, moins de 2% des candidats du BJP étaient des musulmans, alors que cette communauté représente plus de 13% de la population indienne. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Le coup de sang de Donald Trump hier qui a claqué la porte d'une réunion avec les leaders démocrates. Le président américain visiblement sous pression face à la menace de plus en plus précise d'une procédure de destitution. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Direction Cannes à présent. Cannes et son paradoxe climatique. Séance spéciale hier avec la projection du documentaire produit par Leonardo DiCaprio sur le réchauffement climatique, Ice on Fire, alors que l'empreinte carbone du festival affole les compteurs.
Depuis la croisette, la vue est splendide. Les yachts barbotent, les hélicoptères atterrissent au bout de la jetée et les jets survolent les mouettes. Les avions privés, c'est le cauchemar d'Albert Dauphin et de ses voisins.
Dans la journée, on a des jets qui nous passent dessus en permanence.
Il préside l'association contre les nuisances aériennes de l'aéroport de Cannes-Mandelieu.
Si un avion commercial est 40 fois plus polluant pour l'atmosphère que le train, un jet est encore 30 fois plus polluant qu'un avion commercial. On n'a rien contre le luxe, hein, mais non seulement ils peuvent, eux, polluer comme ils veulent, mais en plus, à chaque fois qu'ils volent, ils perturbent la vie de 50 000 personnes.
Face au FAST, l'équipe du Festival de Cannes n'est pas très loquace. Quoi qu'on dise, on nous critique, soupire une source. Hors micro, elle explique que les derniers chiffres, 2012, font état de 30 000 tonnes d'équivalent CO2 émis, dont 97% dû au transport, les avions. Pour les 3% restants, ceux qu'on maîtrise, ajoute-t-elle, on compense notre empreinte carbone. Au palais des festivals qui accueillent la grand-messe du cinéma, on s'est en revanche mis au vert, avec certification. Christophe Arnoux, directeur des opérations.
En électricité, on n'est pas loin d'avoir réduit de 9% notre consommation en une dizaine d'années, 50% sur le papier et entre 11 et 12% sur la consommation d'eau.
Aucune contrainte écologique n'est imposée au festival. Avec 40 000 professionnels accrédités et près de 200 millions d'euros générés, difficile de le faire évoluer.
Côté compétition, à découvrir aujourd'hui le deuxième volet de Mektoub My Love d'Abdelatif Kechiche et Le Traître de Marco Bellocchio. Et puis si James Bond ne meurt jamais, il peut se blesser. Daniel Craig va être opéré de la cheville après une mauvaise chute lors du tournage du nouvel épisode de la saga qui doit sortir dans un an. Daniel Craig, 51 ans, met un point d'honneur à jouer lui-même le plus de cascades possible, ce qui lui a déjà valu la perte de 2 incisives et un déboîtement d'épaule. Dur d'être James Bond.
Merci Agnès Soubiran.